Bosco Douiman.
Merci de nous rejoindre sur Isanga Nirosel au moment de suivre le journal parlé en français. Voici le sommaire. Le 13 février de chaque année marque la journée mondiale de la radio en tant que média d'information. Certains journalistes regrettent que parfois cette information est retenue aussi bien par la population que par les mandataires publics, ce qui est une entorse à la liberté d'être informé aux yeux d'un journaliste senior qui s'est confié à nos micros. Vous l'entendrez. 10 types de boissons très alcoolisées et très prisées en commune Bururi dans la province Burunga représentent un réel danger pour les consommateurs. Notre correspondant nous le dira. Et les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale affirment qu'ils font face à certains défis, notamment la réticence des employés à faire affilier leur personnel à l'INSS. Ils l'ont dit ce jeudi à Gitega au cours d'un atelier. Voilà pour les grands titres. La rétention de l'information par la population et par certains mandataires publics est l'une des difficultés auxquelles font face les journalistes des radios privées dans leur collecte de l'information. Au moment où 13 février marque la journée mondiale de la radio, ces journalistes indiquent que les sources d'information sont parfois intimidées et que les autorités refusent de s'exprimer sur les problèmes sociaux. Ils aimeraient avoir des facilités dans l'exercice de leur métier. Suivez ce micro-baladeur de la rédaction.
On observe la rétention de l'information au niveau de la population. Là aussi, il s'observe la rétention de l'information au niveau des institutions de l'État, surtout aux journalistes indépendants. À part de la rétention de l'information, un journaliste rencontre pas mal de problèmes à la collecte de l'information. Donc, il y a des intimidations. Et un autre problème que je peux signaler, c'est le fait que les cadres de l'État ou bien les institutions étatiques veulent que toute information va dans le sens positif, même s'il y a un « ça ne va pas ».
Aujourd'hui, ce n'est pas facile pour avoir des informations parce que la population a peur. Aujourd'hui, si on se rend sur terrain, on doit avertir l'administration pour travailler. Et cela, vous comprenez que c'est difficile parce que l'autorité, à la base, peut informer la population de ne pas livrer des informations. Ce que tu es en train de faire, là, tu n'es pas sécurisé, tu ne peux pas travailler comme il faut. Et la population a peur de parler de ce qui ne va pas. Et nous, ce que nous faisons, c'est pour dire ce qui ne va pas, pour que les choses soient bien faites.
La radio, pour moi, c'est un instrument très important, très capital, puisque la radio contribue dans le développement du pays. Alors, aujourd'hui, il est vraiment indispensable de voir qu'il y a une partie de la population qui ne s'exprime pas librement. Tu peux approcher quelqu'un dans un quartier où il y a l'entassement des ordures et ce dernier refuse de s'exprimer, disant qu'il sera par après intimidé, qu'il a peur de mourir. Je trouve que ça, vraiment, c'est pas une bonne chose pour le développement du pays, puisque ça entache le métier du journaliste qui a une tâche noble d'informer et de former la population. Autre chose, c'est de voir des autorités administratives qui refusent de s'exprimer alors qu'ils ont des comptes à rendre. Moi, je dirais que ce soit la population, que ce soit les autorités administratives, tous devraient comprendre que la radio contribue, devrait avoir une place très remarquable dans la société et dans la construction du pays.
Et la rétention de l'information déstabilise la population, les prive d'un droit fondamental au regard de l'impact de la radio sur la société. Jean-Claude Kavumbagou, journaliste senior, fait remarquer que la radio est un outil de développement du pays, raison pour laquelle il devrait y avoir une politique de promotion de la liberté d'expression et de l'accès à l'information pour tous. On l'écoute.
Les gens qui retiennent l'information sont surtout des gens influents, des personnes influentes du pouvoir, ou alors qui donnent l'information à un médium qu'ils veulent, donc un médium de leur préférence. Ce n'est pas du tout possible parce que normalement, quand quelqu'un est un membre du gouvernement, il agit au nom de la population qu'il a placée là où il est. Donc il devrait donner l'information pour que les populations sachent où le gouvernement donc en est avec le développement, parce que c'est le droit de la population d'être informée. C'est pour cela que on ne devait pas faire distinction entre une radio publique et une radio privé. Tous sont des médias qui ont une mission publique d'informer. Donc on devrait quand même respecter le travail des journalistes parce que ce sont des gens qui travaillent pour le développement. Et je profite de cette occasion pour féliciter le travail des journalistes, donc qui sont vraiment professionnels à voir ce qu'ils font aujourd'hui.
Que faut-il pour que la retention de l'information cesse et par la population et par les officiels?
Normalement, toute politique est menée par le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit mettre en place chaque politique. Il doit y avoir une politique de communication. Et quand il y a une politique de communication, ça commence par le gouvernement. Donc quand ça commence par le gouvernement, il ne faut pas que le gouvernement commence à censurer. Alors qu'il y a une politique nationale de la communication, on ne doit pas vraiment faire face à une censure du gouvernement. Parce que s'il y a censure du gouvernement, il y a des sanctions qui sont prévues pour les journalistes. Et quand il y a des sanctions qui sont prévues pour les journalistes, il y a l'autocensure. C'est tout à fait normal. Il y a l'autocensure de la part des journalistes qui ne veulent pas toucher sur ce sujet parce qu'ils ont peur d'être emprisonnés, ils ont peur d'être sanctionnés.
Jean-Claude Kavumbagou, journaliste senior. Je vous l'avais dit au début de ce journal, le 13 février de chaque année marque la journée mondiale de la radio. Avec une question au cœur des débats par les professionnels des médias burundais. À Gitega, l'intelligence artificielle est-elle une opportunité ou une menace pour les médias? Le thème a été proposé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Reportage fidèle d'Antoine Sabiman.
Au Burundi, l'usage de l'intelligence artificielle dans les médias reste encore limité en cause un manque de connaissances techniques chez les professionnels, mais aussi des infrastructures numériques insuffisantes, notamment une connexion Internet instable et à faible débit. Jean-Claude Hakizimana, expert dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, estime qu'il est urgent de mettre en place une réglementation claire. Selon lui, un cadre légal permettrait non seulement d'encadrer l'usage de l'IA, mais aussi de sensibiliser et former les journalistes afin d'améliorer la qualité de leur production. Il rappelle que bien utilisée, l'intelligence artificielle peut faciliter la recherche d'informations, la transcription d'interviews ou encore le traitement rapide des données. De son côté, Espérance Ndaizeye, présidente du Conseil national de la communication, souligne que l'IA pourrait également servir d'outil de monitoring pour son institution. Elle explique que cette technologie permettrait de mieux analyser les contenus diffusés par les médias et les corriger plus efficacement les dérapages liés au professionnalisme. Oscar Nzuhabonayo, directeur général de la communication au ministère en charge des médias, le principal défi reste la qualité de la connexion Internet au Burundi. Sans une amélioration significative des infrastructures numériques, l'intelligence artificielle aura du mal à devenir un outil essentiel dans les radios burundaises. Entre innovation et prudence, l'intelligence artificielle apparaît comme une réalité incontournable. Reste à savoir comment le Burundi saura transformer cette avancée technologique en véritable opportunité pour renforcer la qualité et la crédibilité. Cela ressort d'un atelier d'échange sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les médias burundais à l'occasion du Journée internationale de la radio célébrée chaque année le 13 février. Gitega, fidèle d'Antoine Sabimana pour la radio Isanganiro.
Merci Fidèle. Et c'est en 2011, le 13 février exactement, qu'a été proclamée Journée mondiale de la radio par les États membres de l'UNESCO, avant d'être adoptée l'année suivante en tant que Journée internationale par l'Assemblée générale des Nations Unies.
Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel.
Les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale affirment qu'ils font face à certains défis, comme la réticence des employés à faire affilier leur personnel à l'Institut national de sécurité sociale et à leur faire signer des contrats de travail en bonne et due forme. C'est au moment où ce jeudi, la Confédération des syndicats libres du Burundi, CSB, avait organisé à Gitega un atelier de renforcement des capacités à l'endroit des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale et des leaders syndicaux. L'inspecteur général du travail et de la sécurité sociale a promis que certains problèmes évoqués trouveront bientôt des solutions. Reportage Gérard Nibigira.
Un des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale qui avait participé à cet atelier a énuméré certains défis qui les hantent, à savoir certains responsables des entreprises et les employés qui, pour les premiers, refusent d'affilier leurs employés à l'INSS et de les faire signer des contrats de travail, car tout ça exige une certaine somme. Et pour les seconds, il s'agit des employés qui refusent de signer des contrats de travail, cause complexe émanant du fait qu'ils sont diplômés d'université des humanités générales et techniques, mais travaillent dans des hôtels. Autre défi a-t-il signalé, l'administration accepte l'implantation de nouvelles entreprises, mais n'informe pas les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, d'où ces derniers ignorent certaines entreprises et de leurs ressorts, et ainsi ils demandent à l'administration de les informer chaque fois qu'il y a naissance d'une nouvelle entreprise pour le bon fonctionnement de cette dernière en respectant les normes du travail et pour le bien-être social de ses employés. De son côté, Gilbert Nyawakila, président de la Confédération des syndicats libres du Burundi, CSB, qui avait organisé cet atelier, précise que le mobile est de renforcer les capacités des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale.
Le mobile d'avoir organisé pareil atelier, c'est que évidemment, nous savons que les inspecteurs du travail ont des missions très claires en matière de respect et de promotion des droits des travailleurs en milieu de travail. Ils ont aussi la mission économique, parce qu'il y a des entreprises qui finalement ne veulent pas payer les impôts ou des entreprises qui travaillent à perte. Les inspecteurs les accompagnent et cela rentre aussi dans nos missions parce que nous sommes des promoteurs des droits.
Quant à lui, l'inspecteur général du travail et de la sécurité sociale Aster Bizindavi promet que le problème de manque de moyens de déplacement pour les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale trouvera solution très bientôt.
On espère que dans les jours à venir, il y aura les jeunes, c'est-à-dire qu'on va les octroyer des moyens de déplacement. C'est un problème qui est connu par la hiérarchie.
Il se réjouit en outre du travail déjà abattu par ses inspecteurs qu'il estime à 60% de façon générale.
En ce qui concerne le goût des contrats de travail, l'affiliation à l'INSS, à part le secteur de gardiennage qui est un peu en arrière, dans d'autres secteurs, on peut estimer que le respect de la législation nationale est à 60%.
Il regrette néanmoins l'insuffisance des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale sur le territoire burundais. Depuis Gitega, Jean Ibigila pour la radio Isanganiro.
Merci Gérard. Et 10 types de boissons très alcoolisées dont celle appelée Kik et Urumuri est très prisée en commune Bururi dans la province de Burunga, représente un réel danger pour les consommateurs qui ne travaillent plus. Lors d'une réunion organisée ce mardi à l'intention des chefs de service, l'administrateur de cette commune a avoué son incapacité à interdire leur consommation puisqu'elles sont vendues légalement. De leur côté, les participants ont demandé que des mesures soient prises par le gouvernement. Zenon Zambiman.
Les boissons très alcoolisées comme Kik, Urumuri, Hozagara, Fimbo, Ntugasaze, Teramadusome, Burunga, Niko, Zigonge et d'autres communément appelés Ibibangara, beaucoup consommés à Bururi, représentent un danger majeur pour la santé de la population des consommateurs à Bururi, selon certains de la population. Ces derniers déplorent que certains des consommateurs de ces boissons ne travaillent plus. D'autres, à l'état d'ébriété, sont aujourd'hui découverts dans des caniveaux. Le cas le plus récent est celui de ce dimanche, où un homme se vautrait toute la journée dans un caniveau non loin du parking des véhicules assurant le transport en commun. Les informations sur place indiquent que ce gardien de vache avait consommé en même temps les boissons Kik et Urumuri. Les buveurs de ces boissons disent qu'elles sont beaucoup préférées suite à leur faible coût qui varie entre 2000 et 2500 francs burundais la bouteille et leur forte teneur par rapport aux boissons de la Braloudi. Cette question relative aux boissons appelées communément Ibibangara a retenu l'attention des participants à la réunion organisée ce mardi par l'administrateur de la commune de Bururi à l'intention des chefs de service. La forte consommation de ces boissons très alcoolisées, surtout par les jeunes, risque d'entraîner dans l'avenir le manque de la main-d'œuvre selon les participants à cette réunion. Au moment où l'administration se retrouve dans l'incapacité d'interdire la consommation de ces boissons fabriquées et vendues dans la légalité, les participants à cette réunion ont demandé au gouvernement de procéder à leur retrait du marché ou à prendre d'autres mesures visant à protéger la santé de la population comme la diminution de leur degré d'alcool. Godeli Venakritimana, administrateur de la commune Bururi, appelle les administratifs à la base et la police à punir conformément à la loi tous les consommateurs des boissons alcoolisées pendant les heures de service. Depuis Bururi dans la province Burunga, Zenon Zambimana pour la radio Isanganiro.
Toujours dans les nouvelles de Provence, environ 5000 litres de carburant saisis par la police à Kayanza ces derniers jours, d'une valeur estimée à plus de 22 millions de francs burundais, ont été vendus aux enchères ce jeudi 12 février. Les autorités administratives et judiciaires dans cette localité disent que cette opération a été organisée dans le but de décourager le commerce illicite du carburant. Le commissaire provincial de police à Kayanza précise que les fonds issus de cette vente seront versés dans le trésor public. Syriac Nico Nayigize, conseiller du gouverneur dans la province de Boutanyerera, en charge des affaires politiques et juridiques, fait savoir que les propriétaires de ce carburant saisi par la police doivent répondre de leurs actes devant la justice.
Radio Isanganiro, chronique environnement.
Les déchets en provenance de la ville de Bujumbura et déposés à la décharge de Mubonde sont principalement constitués par des ordures biodégradables et non biodégradables. Ceux qui nuisent le plus à l'environnement sont ceux qui contiennent des substances toxiques. Explication de Norbert Manirakiza, enseignant à l'école normale supérieure et chercheur en environnement. Il précise que ces substances toxiques proviennent surtout des plastiques brûlés qui dégagent des fumées provoquant des maladies comme le cancer ou encore des résidus de produits chimiques issus des usines ou des pharmacies. Il l'a dit à Lidiga Himbari.
Les déchets déposés à Mubonde sont de nature très variée. Ils proviennent de la ville de Bujumbura. Ils sont à la fois biodégradables et non biodégradables. Il s'y trouve également des déchets pharmaceutiques et des déchets d'origine hospitalière, comme l'explique Norbert Manilakiza, enseignant à l'école normale supérieure, chercheur et expert en environnement. Les déchets qui polluent le plus l'environnement, selon ce chercheur, ce qui contiennent des substances toxiques.
Les déchets actuellement déposés à Mubonde sont de nature très variée. On y retrouve à la fois des déchets biodégradables et non biodégradables, notamment des déchets ménagers et de marché, ainsi que les déchets industriels tels que le plastique, le verre, les textiles, des produits pharmaceutiques et à certaines occasions, des déchets d'origine hospitalière. Dans ces déchets que nous venons d'énumérer, ce qui pollue le plus l'environnement sont principalement ceux qui contiennent des substances toxiques. Il s'agit notamment des déchets renfermant des métaux lourds, plastiques brûlés, qui dégagent des composés organiques volatiles, toxiques, voire même cancérigènes, ainsi que des résidus chimiques et pharmaceutiques.
Selon ce chercheur, cette pollution se disperse par plusieurs mécanismes. Il y a ceux qui se trouvent dans les lixiviants, qui sont des liquides qui s'écoulent à travers ces déchets et qui contaminent les eaux des rivières et les eaux souterraines.
Cette pollution se disperse par plusieurs mécanismes. D'abord, les substances polluantes contenues dans les déchets se retrouvent dans les lixiviats, c'est-à-dire les liquides qui s'écoulent à travers les déchets. Et ces lixiviats peuvent contaminer les eaux de surface comme les rivières et les eaux souterraines. Certains contaminants se volatilisent aussi et se dispersent dans l'air atmosphérique et peuvent être inhalés par les habitants de la ville de Bujumbura, en particulier ceux qui vivent à proximité de la décharge. Par là, on peut souligner le fait qu'à un certain moment, on incinère ces déchets sur la décharge d'eau Mubonde et quelquefois des plastiques ou des sacs en polyéthylène sont ramassés pour être utilisés à la place des combustibles pour cuire les aliments. Cette pratique est vraiment une pratique très dangereuse à décourager parce qu'elle expose les pratiquants à des nuisances sanitaires vraiment énormes.
D'autres conséquences causées par ces déchets déposés à Mubonde, selon toujours Norbert Manilakiza, sont des plantes cultivées sur des terres amendées avec du compost contaminé provenant de cette décharge de Mubonde qui entre dans la chaîne alimentaire.
On peut également signaler la pollution qui peut être transmise au niveau des sols lorsqu'on utilise du compost ramassé dans la décharge pour amender les sols. Cela peut aboutir à une extraction par les plantes des polluants ou des contaminants qui se trouvent dans le sol, qui pourraient donc atteindre la chaîne alimentaire.
Norbert Manidakiza, chercheur et expert en environnement, explique également que les habitants qui vivent tout autour de la décharge de Mubonde peuvent être exposés par l'inhalation de fumée et de gaz toxiques qui provoquent des problèmes respiratoires, des maladies chroniques, y compris certains cancers.
Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.